Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour!
Bonjour!
Du coup, pour faire suite au premier épisode concernant la gouvernance dynamique, on a introduit en vous racontant un peu notre histoire et comment on en était arrivé à se questionner un peu plus profondément que ce qu'on avait fait auparavant sur les modes de gouvernance et comment on peut faire démocratie dans une organisation qui était un cadre associatif à l'époque. Et depuis, Laurent a fait une activité à travers laquelle il accompagne des organisations, le plus souvent soit des entreprises, soit des associations assez importantes avec des salariés, soit aussi des coopératives, pour sur demande du dirigeant ou du conseil d'administration, pour faire face à des problématiques le plus souvent humaines en fait. C'est plus des problématiques humaines que des problématiques d'organisation.
Il y a les deux, parce que justement... Très souvent, les problématiques humaines procèdent d'une problématique d'organisation au départ. C'est-à-dire que ça crée des tensions entre les humains parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien claires. Les gens interprètent des façons de faire ou des mécanismes qui sont contraires à la perception de l'un ou de l'autre. Donc on a vraiment une façon d'aborder la coopération qui est d'abord centrée sur la raison d'être. Et donc on va d'abord insister là-dessus. Et à partir de la raison d'être, qui remet un peu l'église au milieu du village, on brode ensuite, on va tricoter une gouvernance qui soit vraiment adaptée et un peu sur mesure.
Alors, peut-être quelques fondamentaux et un peu de vocabulaire pour commencer, afin de vraiment vous donner une vision un peu complète de ce que c'est que la gouvernance dynamique. Peut-être déjà l'état d'esprit, parce que ça a été quelque chose d'éclairant pour nous, de comprendre que... C'est une vision qui s'inspire du vivant. Et quand on fait la formation en holacratie, on apprend à regarder une organisation, quelle qu'elle soit, comme un être vivant.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun mal à situer l'organisation d'une autre façon, d'une façon un petit peu nouvelle, en s'appuyant vraiment sur les organes qui sont vitaux ou moins vitaux que d'autres d'ailleurs, qui permettent vraiment de manifester la raison d'être de l'organisation. Et donc ces organes, on va les décliner en différents secteurs. Hein. En fait, on va reprendre les choses qu'on connaît d'une organisation classique, hein, et sauf qu'on va les décliner d'une manière beaucoup plus holistique, ce qui permet notamment d'y mettre beaucoup plus de vie, parce que sinon les organigrammes, c'est un peu figé comme façon de voir. Alors que là, le fait de regarder une organisation comme un être vivant, tout de suite, on impulse un mouvement. C'est pour ça qu'on a appelé ça la gouvernance dynamique. C'est qu'on est vraiment dans le mouvement de la vie et avec toutes les influences qu'on peut recevoir de l'extérieur, de l'intérieur, et comment tout ça évolue et comment tout ça se tricote à l'intérieur même de notre organisation et de notre façon de coopérer les uns avec les autres.
Donc coopération, c'est un maître mot en gouvernance dynamique. C'est vraiment le mot qui est au cœur de la raison d'être et qui finalement remplace des dynamiques de productivité pyramidale.
Ou qui remplace des dynamiques de subordination bêtes et méchantes, c'est-à-dire bêtes dans le sens on ne se pose pas de questions, on obéit, et méchantes parce que... Effectivement, on peut avoir des comportements très dominants, très toxiques vis-à-vis des subordonnés. Quand on est dans des automatismes comme ça, relationnels, hyper directifs, qui finalement nourrissent beaucoup de pathologies, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est jamais satisfaisant finalement, et on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dès qu'on constate les effets de ces relations dominant-dominées au sein des organisations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc l'idée de la gouvernance dynamique, c'est de sortir de ce schéma-là, sans pour autant nier certains niveaux de responsabilité que confèrent certains rôles par rapport à d'autres, et que du coup, on va mettre de la clarté là-dessus, pour que chaque rôle se sente à la fois légitime dans ce qu'il fait, et en même temps faisant partie d'un tout cohérent.
Dans la description de ce podcast, vous trouverez un lien qui vous mène vers un schéma, qui est notre schéma un peu de référence de gouvernance dynamique pour que vous puissiez voir quelle est la cartographie du développement de la gouvernance dynamique. Enfin, c'est un des schémas, parce qu'après, ce qui sera important aussi, c'est que vous puissiez voir ce que c'est que la gouvernance en cercle et comment elle se schématise. À la naissance d'une organisation, il y a toujours ce qu'on appelle une personne source.
Oui, alors ça, c'est vraiment la première idée qui apparaît à travers une personne qui exprime un projet, qui exprime une idée qu'elle a envie de concrétiser.
Cette notion de personne source, elle est encore à l'étude et elle fait beaucoup parler d'elle dans les organisations et notamment dans les oasis, et qui évoque le fait que à l'origine d'un projet, il y a toujours une première personne qui l'a pensé. Même si ce sont plusieurs collaborateurs qui se regroupent ensuite pour fonder une association ou pour fonder une fondation ou pour fonder une coopérative ou une entreprise, il y a toujours ce moment où il y a une petite graine qui germe dans l'esprit d'une personne. Et c'est elle qu'on va appeler la personne source.
Ce qui ne veut pas dire que la personne source est forcément la personne qui va développer le projet d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir des confusions là-dessus. Alors nous, on est plutôt dans un modèle où la personne source développe. En tout cas, dans notre expérience, c'est ce qu'on vit nous. Mais ce n'est pas du tout forcément le cas. On a plein d'exemples où une organisation a été impulsée par quelqu'un qui a une idée. Mais s'il n'y avait pas eu des personnes pour la développer, il n'y aurait pas d'organisation, il n'y aurait pas de résultats, il n'y aurait pas de consolidation ou de production de quelque chose. Donc l'idée, c'est absolument indispensable, mais il ne faut pas croire que la personne qui a eu l'idée peut développer, a les capacités même de développer le projet qui va derrière.
Donc, l'une des étapes nécessaires pour trouver des collaborateurs et des compétences qui vont pouvoir développer ce projet, c'est la phase de communication. Donc, mettre le projet en forme d'une manière lisible et intelligible pour tous ceux qui vont y contribuer. Et le recrutement de partenaires.
Alors là, pareil, quand on parle de recrutement, ce n'est pas forcément un recrutement à ce stade, en tout cas, typiquement entrepreneurial, où il y a déjà un budget pour recruter des gens. C'est juste des personnes qui sont affinitaires avec l'idée et qui ont envie que cette idée se matérialise en un projet concret. Donc c'est ces partenaires-là qui vont définir les conditions, peut-être donner les contours de la raison d'être réellement, de rendre la raison d'être de ce projet très explicite. Et une fois que cette raison d'être est posée, après, c'est quelles sont les personnes dédiées, adéquates, dont le profil correspond à la mise en œuvre.
Donc que ce soit une création d'organisation ou bien que tu interviennes sur une organisation qui est déjà active depuis une ou plusieurs années et qui fait appel à tes services, on passe par cette définition ou redéfinition de la raison d'être.
Souvent, c'est une mise à jour, parce qu'on s'aperçoit que quand j'interviens dans des conditions comme ça, d'une organisation déjà existante, c'est jamais un hasard si les personnes souhaitent faire évoluer leur façon de faire. Alors, il y a des cas de figure où ils sont vraiment déjà sur une lancée très très précise, que la raison d'être est hyper claire, elle est historique, de longue date, etc. Et là, on ne va pas vraiment vraiment faire bouger les lignes. Mais très souvent, c'est l'occasion quand même de revisiter la raison d'être et de la préciser, de l'approfondir, de manière à ce que vraiment, c'est comme un peu repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Sans forcément dénaturer ce qui s'est posé dès le départ. Mais la gouvernance dynamique va apporter cette espèce de rebond qui permet aux gens de se remobiliser à un moment donné pour redévelopper quelque chose ou redéployer quelque chose qui peut-être était un peu à bout de souffle ou qui justement subissait le flou qu'on constate un peu partout dans les organisations. Moi, que je suis, à chaque fois que j'arrive, je vois bien que même les organisations très pointues, même qui sont normées des fois, qui doivent satisfaire à des normes super, super précises, ben on s'aperçoit que la définition des rôles souvent est encore très floue. Je ne parle même pas des périmètres parce que alors là, même dans les entreprises où on pourrait imaginer que tout ça est très carré, ben en fait non. Il y a encore des
Alors,
zones.
juste arrête Laurent parce que rôle et périmètre, c'est pas forcément clair pour les personnes, donc on va y aller pas à pas, si tu veux bien. Donc, juste pour revenir 2 minutes à cette raison d'être, Peut-être que tu peux raconter un exemple. Par exemple, je pense par exemple à l'agence immobilière, parce que souvent les personnes qui font appel à une aide pour revoir la gouvernance de leur entreprise, ce sont des personnes qui sont en crise en quelque sorte, en tout cas qui traversent un inconfort. Et c'est le plus souvent des dirigeants. On peut avoir dans l'idée que ce sont toujours les travailleurs ou les salariés qui souffrent. Il y a aussi les dirigeants qui souffrent. Il y a des crises de sens, il y a des crises relationnelles, il y a des dirigeants qui ont vraiment de la peine à continuer à tenir l'entreprise à bout de bras, ou en tout cas c'est la représentation qu'ils en ont, avec des personnes qui trouvent souvent pas suffisamment motivées ou pas suffisamment mobilisées sur les objectifs de l'entreprise. Oui, est-ce que tu pourrais raconter un exemple de raison d'être qui a été revue et qui même a permis à un dirigeant de prendre conscience de ce qu'il aimait faire à travers son travail?
Oh, bah, c'était très très évocateur parce qu'effectivement, ça fait partie des premiers clients à l'époque. C'était il y a déjà, bah oui, ça commence à faire, hein, 6 ou 7 ans. C'était vraiment assez touchant de voir que quand on est reparti sur bon, une agence immobilière, on a tous en tête quelque chose de très business, de très cadré par un marché très concurrentiel avec. Ben voilà, moi j'ai une image du métier même d'agent immobilier un petit peu. Bon, c'est pas l'idée que je me fais de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Voilà. Donc j'y suis allé un petit peu comme ça avec circonspection. Et finalement, quand j'ai titillé le dirigeant pour lui demander, mais au fond, pourquoi il était chef de cette agence où il y avait je sais plus combien de collaborateurs, etc. Il me dit, ouais, non, mais tu sais, moi en fait. Les gens comprennent pas du tout ce qu'on fait, mais moi finalement l'argent je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Ah, alors là, je lui dis ah bon mais attends, d'accord, mais non en fait moi ce que je veux et il continue d'enchérir en me disant moi ce que je veux c'est accompagner les gens dans leur projet de vie. Et là moi j'étais là je dis bon d'accord, tu veux accompagner les gens dans leur projet de vie. Il me fait oui, en fait si tu me demandes la raison d'être de mon agence immobilière c'est accompagner les gens dans leur projet de vie. Alors moi je suis resté un petit peu étonné parce que du coup on n'a pas du tout. Normalement une raison d'être ça dit quand même l'activité, ça dit quelque chose qui se rapporte au métier. Et là je dis mais tu te rends compte que tu pourrais être psychologue ou tu pourrais être coach ou tu pourrais être je sais pas quoi, mais accompagner les gens dans leur projet de vie quand tu es agent immobilier ça va pas de soi. Et oui mais c'était ça qui l'animait, c'était comme ça qu'il le vivait, c'était sa passion, c'était comme ça qu'il. Ouais, c'était ça qui faisait qu'il se levait tous les matins parce qu'il savait qu'acheter une maison pour les gens, c'était super important, que c'était le projet. Oui, c'est vrai que c'était le projet de leur vie. Ils empruntaient, ils oblitéraient énormément de ressources pour ça, etc. Donc, pour lui, c'était vraiment ce qui l'animait tous les jours. Et oui, effectivement, le fait de rendre ça explicite vis-à-vis de ses collaborateurs, ça a créé une petite onde de choc quand même, parce que. Moi, je dis ça, tu sais, il va falloir qu'on puisse en parler avec tes collègues pour savoir si eux, c'est vraiment là-dessus qu'ils vibrent. Parce que moi, j'entendais beaucoup de choses qui étaient liées peut-être à des instincts plus mercantiles et plus éloignés de cette vibration-là. Et je dis, tu sais, ça pourrait être intéressant de savoir si vraiment c'est ça que ton agence véhicule. Parce que, et en fait, pour lui, c'était la base, c'était le plus important. Et il souffrait énormément de cette réputation, justement, que pouvaient avoir les agents immobiliers, de ce côté vénal, de ce côté faire absolument des affaires sur le dos des gens, etc. Donc, lui, vraiment, à cet endroit-là, il était catégorique. Donc, ça a été l'occasion de créer un espace très intéressant, très touchant, avec l'ensemble des personnes salariées qui étaient dans l'agence, pour remettre vraiment cette raison d'être en première ligne dans le cadre de ce métier qui finalement pour lui un métier d'abord d'accompagnement des gens pour un habitat dans les meilleures conditions possibles.
Et du coup, les salariés se sont reconnus dans cette raison d'être. Comment est-ce que vous avez avancé avec ça?
Ben pas tous. Par contre, ils ont tous vu que c'était bon pour l'entreprise. Ça, ils l'ont tous vu. Mais il y en avait qui étaient clairement, d'ailleurs, j'ai trouvé l'authenticité de ces personnes assez chouettes parce qu'ils auraient pu tous faire les canards en disant bah oui, On est d'accord, très bien, et puis rien dire de plus. Mais tu avais des gens qui ouvertement disaient non, moi, tu sais, ok, c'est chouette si on rend service aux gens, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire carrière, c'est de d'avoir du marché, c'est de faire des chiffres. Donc ils étaient vraiment, il y en avait qui étaient sur le chiffre, hein, qui étaient vraiment sur le business, mais que finalement, c'était pas si dérangeant dans la mesure où il y avait une vraie prise en compte de l'accompagnement des personnes dans leur projet de vie. Donc au final, c'était pas incompatible.
Ça a quand même donné une couleur à la manière de travailler.
Ah bah c'était incontestable que là, s'il n'y avait pas du soin donné aux gens à cet endroit-là, c'était même pas la peine. Donc c'était quand même des postures, du coup, accompagner les gens, soigner les gens dans leur chemin de vie, c'était automatiquement avoir des relations franches et saines avec eux, enfin tout un florilège de qualité que ce dirigeant entendait vraiment défendre.
Donc c'est ramener de l'écoute, de la convivialité.
La
De la
considération,
considération, ouais,
c'est ça.
avant tout.
Ouais. Et du coup, on a pu déployer la gouvernance dynamique dans cette raison d'être-là. C'est-à-dire que la raison d'être, en fait, elle guide toutes les actions et elle guide même l'ensemble des supports, puisqu'on la retrouve partout. C'est pas quelque chose qui est souterrain. Une fois qu'on se l'est dit, on passe à autre chose. Non, non. La raison d'être, en fait, elle est omniprésente. C'est un espèce d'anglicisme, on appelle ça la baseline, c'est-à-dire qu'on la retrouve en une phrase. Floqué dans toutes les dans, sur tous les supports de communication intra et extra de l'entreprise, hein, que vraiment on s'y réfère en permanence, c'est le référentiel. Voilà, c'est la raison d'être.
Ok. Donc, une fois qu'on a défini la raison d'être, elle est vraiment mise au centre de toute l'organisation, ça va être vraiment son cœur battant, la raison d'être, ça va être son âme, on pourrait dire.
Oui. Son
Et
énergie animatrice, c'est ça.
c'est ça. Et du coup, les cercles vont s'organiser. Donc, toi, souvent, ce que tu es amené à faire quand tu interviens dans une organisation, c'est de faire une sorte d'audit pour regarder le fonctionnement de l'organisation et en tirer la structure, non plus la structure telle qu'on la connaît,
Organigramme, etc.
voilà, avec quelque chose de l'ordre du système, mais plus quelque chose d'organique qui met en relation des cercles complémentaires les uns avec les autres. Donc toi, tu vas contribuer à définir ce qu'on va appeler des cercles, parce que ça va être la base d'une nouvelle gouvernance.
Alors pourquoi la forme du cercle a été choisie? C'est parce que justement, tout cercle contient un centre, en fait. Un cercle n'existe pas s'il n'a pas un centre. Et que ce centre, évidemment, c'est la raison d'être. Donc on parle vraiment de la gouvernance dite en cercle parce qu'au centre, on y met toujours la raison d'être. Donc on a la raison d'être principale qui est vraiment celle autour de laquelle tout s'agence et tout se construit, tout se structure. Et après, on va avoir des raisons d'être secondaires qui sont des raisons d'être au service de la raison d'être principale. Que ce soit dans le mode, par exemple, dans la communication, dans la production, voilà, dans la stratégie, plein de choses qui vont faire que des fonctionnalités, des organes, hein, c'est pour ça qu'on peut prendre la symbolique du corps humain, d'un corps vivant, c'est qu'en fait, on va être constitué de plein d'organes qui concourent à la bonne santé de l'ensemble. Et à chaque fois, bah, le cœur, lui, évidemment, sa raison d'être, c'est de pomper du sang, de battre dans un rythme, etc., qui correspond à l'effort du corps. Le poumon, ça va être, voilà, de gérer les flux d'air, etc. Donc, vous voyez, chaque fois, on a des raisons d'être secondaires qui viennent finalement structurer et assurer la santé d'une raison d'être principale.
Et là, on voit vraiment en quoi ça libère les entreprises, c'est que on n'a plus au centre de toutes les préoccupations, les bénéfices, les gains, le profit et la satisfaction des dirigeants ou des actionnaires, mais on met vraiment au centre et on vient œuvrer ensemble, collaborer, coopérer ensemble au service d'une raison d'être qui représente plutôt des notions plus humanistes et des valeurs.
Disons que c'est l'œuvre commune, parce qu'après, ça peut être effectivement quelque chose de très humaniste avec beaucoup de valeurs, mais il y a plein, plein de gens maintenant qui commencent à organiser la gouvernance en cercle à des fins tout à fait mercantiles, capitalistiques et autres, parce qu'ils ont compris que le simple fait de donner du sens et de travailler non pas pour satisfaire, comme tu l'as dit, des actionnaires ou un leader ou un patron, mais donner du sens, finalement, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est beaucoup plus fédérateur pour les gens qui coopèrent que juste voilà, les vieux principes qui datent du XXe siècle, en fait, hein, cette histoire hiérarchique, pyramidale et autres. Donc ça, maintenant, c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs c'est quand même pas mal à la mode aujourd'hui, hein, chez les dirigeants, de commencer à impulser comme ça des dynamiques de gouvernance dites en cercle, parce qu'en fait, ça correspond à un besoin des gens, et que les gens sont beaucoup moins malheureux au travail quand ils sont dans des dynamiques de gouvernance en cercle, que quand ils sont dans les anciens schémas. Pour la bonne raison qu'au moins, le sens est donné, il est posé, il est explicite, et il est entretenu, il est maintenu, il est mis à jour, et que toute cette façon de coopérer, de travailler en équipe, ça devient souvent, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on est presque dans un jeu. C'est-à-dire que comme on a des cartes rôle, on a des réunions qui sont très processées, qui sont très très structurées, ça devient des jeux. On peut faciliter, on peut animer à tour de rôle, on peut faire plein de choses comme ça qui apportent à la fois de la légèreté, mais aussi de la rigueur. C'est-à-dire que comme on a un support qui est très précis et on a des bases de travail qui sont communes, alors on peut jouer sur ces bases communes qu'on co-construit et qu'on coproduit ensemble.
Peut-être pour asseoir une notion qui est importante dans la gouvernance dynamique, à savoir que un rôle, quel qu'il soit, où qu'il soit, dans le schéma de gouvernance, il est invité à adopter une posture de service plutôt qu'une posture de pouvoir, même quand il y a beaucoup de responsabilités.
Bah, dans tous les cas de figure, la personne qui est, on va dire, la plus responsable d'un cercle, c'est-à-dire que c'est le rôle premier lien, comme tu l'as dit, c'est celle qui, en même temps, va avoir le plus haut niveau de service qu'on va lui demander. Donc, effectivement, c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est quand même hiérarchique, dans le sens premier du terme, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, en tout cas des rôles, qui vont détenir des clés que d'autres n'ont pas. Mais le pendant de cette responsabilité, c'est qu'en fait, ça demande énormément de dévouement, parce que quand on est responsable d'un cercle et que donc on endosse le rôle de premier lien du cercle, ça veut dire qu'on répond devant les autres de la bonne santé du cercle. Et que donc, s'il y a un problème dans le cercle, c'est au premier lien de résoudre ce problème, quoi que ce soit. Et donc, forcément, c'est lui qui doit être le plus dévoué, y consacrer le plus de temps, pour être sûr que la bonne santé du cercle est assurée.
Chaque sous-cercle a son premier lien. Donc, quand on parle de premier lien, ce n'est pas une personne dans l'organisation, mais c'est plusieurs personnes, puisque chaque cercle a son premier lien. Et chaque premier lien a un rôle de soin et d'attention à l'égard de son cercle.
C'est ça. On a donc des cercles qui contiennent d'autres cercles à l'intérieur, et qui eux-mêmes peuvent encore en contenir d'autres, jusqu'à arriver au rôle, puisque finalement un cercle et un rôle, c'est la même chose, sauf que un rôle peut être juste tenu par une seule personne. Dès qu'on a deux ou trois personnes qui exercent le même rôle, à ce moment-là, on a un cercle qui contient donc deux ou trois personnes, dans lequel on va retrouver du coup un premier lien. Parce qu'à chaque fois qu'il y a deux ou trois personnes, automatiquement, il y a un premier lien qui se crée, qui est le responsable de l'activité qu'exercent deux ou trois personnes. Voilà. Donc, vous voyez, le rôle et cercle, c'est la même chose, sauf que un rôle tout seul, bah, c'est juste une personne. Et dès qu'on est plusieurs, ce sera un cercle. Voilà.
Mais ça peut être des rôles complémentaires qui œuvrent pour la même réalisation, c'est-à-dire la même raison d'être. Donc pas forcément le même rôle dupliqué plusieurs fois, mais plutôt des rôles en coopération. Par exemple, prenons un exemple pour le cercle administration. Il peut y avoir un rôle secrétariat, un rôle gestion, un rôle intendance, un rôle comptabilité.
C'est ça. Sauf que par exemple, le rôle comptabilité, au début de l'activité, il y a peut-être une personne. Et puis dès que l'activité augmente et qu'on a besoin de recruter un deuxième ou un troisième comptable, d'un seul coup, ça devient le sous-cercle comptabilité.
D'accord.
Parce que justement, il y a deux ou trois comptables maintenant qui exercent le rôle de compta.
Et donc chaque cercle ou sous-cercle nomme son second lien. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un second lien?
Alors ça, moi, je ne le fais pas systématiquement. Je le fais quand la taille de l'équipe est suffisamment conséquente pour ne pas alourdir le système. Mais oui, tu fais bien d'en parler. L'histoire du second lien, c'est en fait le flux ascendant, puisqu'on a parlé du premier lien qui, lui, est descendant, dans le sens où c'est lui qui élabore une stratégie, c'est lui qui va recruter les personnes avec qui il va coopérer au sein de son cercle. C'est lui qui va définir la stratégie pour que son cercle produise les effets escomptés, etc., etc. Donc il a vraiment une position quand même descendante. Et le second lien, ça va vraiment être celui qui rapporte les éléments dysfonctionnels dans son cercle. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas, eh bien, c'est le second lien qui est chargé de communiquer les problématiques au cercle supérieur. Donc ça, c'est vraiment super important parce que un second lien, il siège de droit dans le cercle supérieur, il a un droit d'objection dans le cercle supérieur, et c'est par lui que passent les problématiques, les reportings, comme on dit, hein, les rapports de bonne santé ou de mauvaise santé du cercle auquel il appartient.
Alors, c'est quoi la différence du coup entre un premier lien et un second lien?
Ben, ça veut dire que le premier, lui, c'est vraiment son travail de responsable d'assurer la bonne santé, encore une fois, et toutes les bonnes pratiques, et de vérifier que l'ensemble des personnes et des rôles sont bien affectés et font bien leur travail. Et en même temps, quand il y a un dysfonctionnement, c'est le second lien qui vient le rapporter.
Alors là, tu parles de dysfonctionnement, mais en gouvernance dynamique, on parlera plutôt de tension, mais ça, c'est une notion qu'on expliquera aussi plus en détail, parce que ça n'a pas de connotation négative comme dans le langage courant. Chaque cercle ou sous-cercle va fonctionner avec des rôles. Chaque rôle dispose d'une fiche de rôle ou écrit une fiche de rôle. Et ça, c'est un peu le patrimoine collectif du cercle.
Ah bah c'est non seulement son patrimoine, mais c'est ce qui fait son socle. C'est-à-dire que c'est enfin, on sort de l'implicite. Enfin, on n'a pas juste quatre lignes dans un contrat d'embauche qui nous disent ce qu'on doit faire. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le droit du travail, hein. On ne détaille pas vraiment. On est embauché en tant que secrétaire comptable. Et puis, si tout va bien, le contrat précise quelques redevabilités par-ci, par-là. Mais jamais bien. Bien loin. Là, vraiment, l'idée, c'est que la fiche de rôle, ça devient un support vivant de l'activité de la personne en tant que telle. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer, on va faire bouger, on va co-construire les fondamentaux qui permettent à la personne d'exercer le rôle le plus ajusté possible au contexte. Puisque le contexte d'une entreprise, d'une association, d'une coopérative ou autre, c'est toujours vivant, c'est jamais la même chose à un instant T. Et que du coup, les rôles, il peut y avoir des tensions dans l'exercice de la pratique de leur rôle, et que du coup, c'est vraiment très important que ces tensions puissent être traitées et que tout ça soit très explicite. Hein. C'est vraiment la notion d'explicite, ça veut dire qu'on sait à chaque fois s'il y a un changement, on est bien au courant du changement parce qu'il y a une évolution qui est nécessaire, tout le monde la voit, tout le monde la connaît, et tout le monde est d'accord avec, et du coup. Ben, le rôle de la comptable, il a changé. Par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure de la comptabilité, ben peut-être que, il y aura une nouvelle redevabilité de la comptable, c'est d'éditer, je ne sais pas quel indicateur, par exemple, qui n'était pas nécessaire auparavant. Parce que d'un seul coup, le marché, je ne sais pas quel truc, est en train de se tendre. Et du coup, on a besoin de savoir très régulièrement, peut-être toutes les semaines, où est-ce qu'en est l'indicateur de tel produit ou de telle ressource. Et que ça, avant, ce n'était pas un problème, donc il n'y avait même pas besoin d'avoir d'indicateur. Ben maintenant, il y en a besoin, et c'est à elle de faire une veille. Par exemple, voilà, ben ça, c'est une tension qui peut être amenée par un autre rôle, et qui trouve que, eu égard à déjà des rôles de veille que peut avoir la comptable, eh ben, on lui demande si elle est OK pour exercer ce rôle-là. Enfin, cette redevabilité-là, c'est pas vraiment, c'est dans le cadre de son rôle. Et à ce moment-là, effectivement, on peut ajouter une redevabilité comme ça. Et c'est vraiment cette notion-là qui est en fait le vivant du quotidien de gens qui coopèrent les uns avec les autres, qui devient vraiment très intéressant à documenter parce qu'au moins on sait exactement qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, dans quel cadre et dans quel périmètre. Et ça, c'est vraiment, vraiment super clair, ce qui permet aux gens après de ne plus se raconter d'histoires où ça fait taire toutes les mauvaises langues souvent qui vont avoir à se plaindre sur le fait que tout ça est très opaque, qu'on nous cache des choses ou que le pouvoir il n'est pas là où on croit qu'il est, etc. Là, d'un seul coup, tout ça disparaît parce que le système fait que ça n'a plus droit de cité en fait.
Oui, ce sont des modes d'organisation qui font appel à la responsabilité individuelle et où qu'on se trouve, encore une fois, dans l'entreprise ou dans la coopérative ou dans l'association, eh bien, on est appelé dans notre sens de la responsabilité, chacun, avec la possibilité de faire valoir une difficulté, un besoin, une tension. Mais ça, on va y revenir aussi. Pour finir, donc juste cette présentation un peu générale qui sera détaillée dans de prochains podcasts, parce que c'est vraiment presque chaque notion mérite qu'on s'y attarde. Dans le fonctionnement opérationnel, comment ça se passe? Quels sont les espaces de discussion et de collaboration?
Oui, là après, on va les balayer très rapidement, mais effectivement, bon, on a les réunions, on va dire, périodiques qu'on connaît tous quand on travaille, quand on coopère les uns avec les autres, qui se déroulent en général une fois par semaine, enfin une fois par semaine ou deux fois par mois minimum, qu'on appelle chez nous les réunions de triage, qui sont issues, d'ailleurs c'est une expression qui est issue de l'holacratie, parce que c'est elle qui a vraiment détaillé les grands principes pour que tout ça soit fonctionnel. On va vraiment sentir à quel endroit on est capable de résoudre une tension très rapidement et à quel endroit on ne peut pas la résoudre tout de suite dans l'instant et quelles mesures on prend pour quand même assurer une réponse à une tension qui émerge. Donc ça, c'est vraiment les réunions opérationnelles, mais qui sont l'objet d'un processus qu'on détaillera plus tard. Et ensuite, on a les... Alors, moi, j'aime pas trop les réunions de gouvernance parce que maintenant, j'en fais presque plus. L'aspect qui est lié à la gouvernance, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment l'aspect justement qui est lié à la façon qu'on a de coopérer ensemble, qui n'a rien à voir avec coopérer ensemble. Hein, quand on coopère ensemble, on résout des tas de petits problèmes toute la journée ou ensemble dans les réunions quand on se voit, parce qu'on a des besoins particuliers qui sont liés à nos rôles et d'autres peuvent remplir ces besoins et vice-versa. C'est de la coopération. Après, les réunions de gouvernance, c'est on se regarde coopérer, on regarde justement quels sont nos périmètres, quelles sont nos redevabilités et est-ce que des fois, en fonction de nouveautés, de choses qui ont changé dans la vie de l'organisation ou même de la loi extérieure ou des choses comme ça, bah, comment on ajuste au mieux notre façon de coopérer à la réalité qu'on vit au niveau de la coopération. Donc ça, c'est vraiment des choses. Maintenant, moi, j'ai pas forcément besoin d'organiser des réunions de gouvernance, mais par contre, on les traite. Et on les traite de manière extrêmement précise et productive, au même titre qu'une redevabilité classique opérationnelle.
C'est le moment aussi où on fait évoluer les schémas de gouvernance qui
C'est
sont à la
ça.
disposition de tous. On vous parlera aussi des outils collaboratifs qui permettent d'accéder, que chacun, chaque membre de l'organisation puisse accéder à l'information. Et enfin, il y a un troisième espace collaboratif, en tout cas de réflexion.
Oui, mais ça, c'est pareil. Donc, on appelle les réunions stratégie, c'est-à-dire de quelle stratégie on se dote pour parvenir à remplir nos objectifs. Et là, encore une fois, aujourd'hui, moi, je noie un peu tout ça, les notions de gouvernance et de stratégie, je vais les noyer dans la notion de groupe de travail, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir l'émergence d'une problématique stratégique qui émerge toujours au même endroit, c'est la réunion de triage, en fait, qui est la réunion opérationnelle, comme je disais, qui est hebdomadaire ou bimensuelle, par exemple. Et en fait, dans cette réunion peuvent émerger des problématiques de gouvernance ou de stratégie qui vont donner lieu à des créations de groupes de travail dédiés, qui vont inviter des personnes qui sont compétentes sur ces sujets-là, sur les sujets qu'on a besoin de faire maturer. Et du coup, on distingue bien la notion de stratégie et de gouvernance, mais on ne va pas forcément... y dédier des réunions, parce qu'après ça peut s'apparenter à de la réunionnite, moi, sur laquelle je suis pas super super fan, et je préfère nettement rester dans le flux de la vie, et que quand une problématique stratégique émerge, on la traite. Quand une problématique de gouvernance émerge, on la traite. On se demande si on peut la traiter rapidement ou pas. Et si c'est rapide, on n'a pas besoin de faire de groupe de travail. Et si ça demande de l'élaboration, du débat, de la contradiction, de l'expertise extérieure ou autre, ou même des personnes qui ne sont pas là, mais qui sont dans l'organisation, mais qu'il faut inviter, bah à ce moment-là, on crée un groupe de travail. Comme ça, c'est vraiment des mécaniques hyper simples au service de la raison d'être et au service de l'efficacité, puisqu'il faut rappeler quand même que la plupart du temps, quand les personnes sont en réunion, elles sont payées pour ça, et que donc on ne peut pas passer sa vie en réunion. Il faut aussi produire les choses pour lesquelles on est redevable.
Oui, j'ai l'impression que ce que tu dis là, Laurent, toi, c'est que pour toi, ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui est dans le flux vivant du quotidien et de ce qu'on appelle les experts d'usage, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment aux manettes, qui ont le tableau de bord sous le nez et qui voient où sont les difficultés, où sont les besoins, où sont les réussites, où sont les tensions d'évolution, et que tu vas essayer de traiter ça le plus possible avec ce qu'ils font, par ce qu'ils font, plutôt que de renvoyer ces questions-là à des instances décisionnelles supérieures
Bah, disons que les instances décisionnelles supérieures, elles doivent être associées à la réflexion, notamment parce qu'on va toujours se poser la question quand une tension émerge, oh là là, mais de quel périmètre est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'effectivement une tension, elle naît d'un endroit qui est tout petit, au fin fond d'un sous-cercle, mais qui finalement concerne un enjeu super fort qui est vraiment légitime et qui est complètement aligné avec la raison d'être? Et on la prend, on l'accueille et on trouve ça même très bien et on remercie. Le rôle, la personne en l'occurrence, qui a émis une tension qui finalement concerne tout le monde. Donc c'est vraiment super précieux et souvent, évidemment, la personne qui a émis la tension, elle va être entre guillemets aux manettes, en tout cas elle va participer parce que si elle a capté la tension, c'est qu'elle a quelque chose avec ça et qu'elle a sans doute un élément qui est super important pour résoudre la problématique. Mais ça ne suffit pas. Et peut-être que la tension qui émerge est une tension effectivement qui concerne les plus hautes sphères du super cercle, voilà, ou du conseil d'administration, ou que sais-je. Et effectivement, bah, là, le second lien va pouvoir justement remonter la tension dans le cercle supérieur pour pouvoir vraiment signifier qu'il y a un travail qui est en maturation, en préparation, et après y inviter toutes les parties prenantes pour d'abord préparer et élaborer quelque chose qui ensuite sera décidé. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs étapes quand on est sur des enjeux un peu forts. C'est d'abord on prépare, donc là c'est groupe de travail, proposition, et ensuite on décide.
Ok, bah, je pense que pour aujourd'hui, on a vraiment brossé un peu en détail
Les grands contours pour l'instant.
oui, les grands contours de la gouvernance dynamique. C'est vrai qu'on peut avoir un langage assez entrepreneurial, mais je tiens à témoigner pour l'avoir vécu au sein de mon association, la Ferme des Enfants, que la gouvernance dynamique s'applique aussi dans des contextes qui sont associatifs, où il y a des bénévoles. Où il y a des valeurs fortes et une organisation vivante qui n'est pas forcément dédiée à produire de la matière économique.
Aujourd'hui, plus des trois quarts des organisations que j'accompagne sont des organisations de l'économie sociale et solidaire.
C'est
Et elles
ça.
sont sous forme associative ou coopérative. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas accompagné d'entreprises pure et dure. Donc, effectivement, la gouvernance dynamique, au contraire, elle a plutôt le vent en poupe en ce moment, dans des organisations qui sentent bien qu'il y a besoin de structurer différemment, mais qui, ont des raisons d'être souvent assez fortes et assez altruistes dans des domaines quand même liés au service, à une philosophie de la vie qui est un petit peu, qui cherche à être d'utilité sociale.
Ok, et ça convient aussi dans les oasis, mais avec des limites et parfois des difficultés sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais on tente en tout cas de faire vivre aussi la gouvernance dynamique au cœur des oasis.
Oui, on y reviendra, parce que en fait, là, c'est des sujets super passionnants, mais qui ne discréditent pas du tout la gouvernance dynamique, mais qui la confrontent, comme dans n'importe quelle organisation qui repose sur le bénévolat, à l'engagement des participants. Donc on y reviendra prochainement. Merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt.
Merci, au revoir.